Et donc, le communisme, il y a eu beaucoup de communisme ces moments et qui lui-même a complètement échoué. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il reste aux gens? La religion, la foi, il n'y a plus rien. Et donc, ce retour de la foi qui nous surprend, il est non seulement une conséquence de la mort des religions terrestres qui étaient le communisme ou le fascisme, c'est aussi le besoin de croire en quelque chose. Et d'ailleurs, le même phénomène, vous le trouvez avec l'évangélisme aux États-Unis, maintenant en Amérique latine, au Brésil, il se déchaîne, cet évangélisme. Donc, si vous voulez, il y a le retour des religions qui est...
Parce que l'être humain a besoin de croire?
Absolument. On ne vit pas que de pain, vous le savez bien. Mmh. Oui.
Mmh. Et donc, il faudrait qu'il croie en quoi, idéalement, aujourd'hui,
non,
l'être humain?
Vous savez, dans l'être humain, justement, le complexe de l'être humain, il y a un besoin de communion, il y a un besoin de ferveur, il y a un besoin d'amour. Mais il y a aussi un besoin de raison, il y a la capacité du scepticisme. Heureusement que le doute est né dans notre civilisation et aussi dans d'autres. Donc, si vous voulez, l'être humain est très complexe et très fragile en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Les mêmes humains qui, à un moment donné, ont voté pour Lula, une fois qu'ils sont déçus et qu'on leur a dit que c'était totalement corrompu, ils ont voté pour Bolsonaro. Les mêmes qui ont voté le Front Populaire, quand il y a eu le traumatisme de la défaite, beaucoup ont été devenus pétinistes. Les êtres humains, c'est ça, c'est pas stable l'humanité. Elle subit sans cesse des contradictions. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. Puisqu'on enseigne nulle part ce que c'est qu'être humain, on ne sait même pas ce que nous sommes. Les uns disent l'homme est bon, comme Rousseau, l'homme dit l'homme est mauvais, comme Hobbes. Mais qu'est-ce que c'est pas? On est bon, on est mauvais, ça dépend. Des petits bureaucrates peuvent venir des tortureurs d'Asie, ou même pendant la guerre d'Algérie, parce que brusquement leurs instincts sadiques trouvent le moyen de s'exprimer. Et par contre, d'autres peuvent venir des saints, des héros. C'est ça l'être humain.
Étudie la complexité de l'être humain.
Et bien voilà, c'est ça. Comme les gens ne veulent pas voir la complexité, veulent voir des schémas simples et alternatifs, ils ne comprennent pas ça.
Il faudrait donc enseigner ce que ça signifie être humain. Voilà l'une des recommandations d'Edgar Morin.
La première.
Dans quel monde on vit?
Le samedi de 10h à 11h.
Pascal Claude.
Merci à vous d'entamer votre week-end dans notre compagnie. C'est le sociologue et philosophe Edgar Morin, l'invité exceptionnel de votre magazine. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours à Paris. À 98 ans, il signe une sorte d'autobiographie baptisée « Les souvenirs viennent à ma rencontre ». Beaucoup de noms sont évoqués dans ce livre d'Albert Camus à Marguerite Duras, nous y viendrons. Et puis il y a aussi ces noms dont je n'avais jamais entendu parler. Gaston Poncet, Edgar Bérécy, Manin ou encore Edgar Naoum. Mais alors, qui sont-ils? De qui s'agit-il?
Alors, je vais vous dire, quand j'ai dû plonger dans la clandestinité parce que je faisais partie d'une classe d'âge qui devait partir au service du travail obligatoire en Allemagne, et donc j'ai été insoumis. Bon, donc il fallait que j'aie des papiers d'identité qu'on m'a donné au nom de Gaston Poncet, qui est un être réel, beaucoup plus âgé que moi, mais qui était prisonnier en Allemagne. Donc ça a été une identité extérieure qui a été celle pendant toute cette époque. D'autre part, Manin est... je me suis appelé longtemps, et j'ai pris comme pseudonyme d'abord Edmond, et quand la Gestapo l'a connu, j'ai voulu m'appeler Manin, du nom d'un héros de Malraux dans l'espoir, mais ça n'a pas duré, puisque quand j'étais à une réunion clandestine de camarades, on m'a annoncé le camarade Morin. Donc j'ai accepté d'être Morin, mais que je ne l'avais pas voulu, mais ça m'est resté. Bérécy, c'est le nom de famille de ma mère, que j'ai pu utiliser à différentes reprises et surtout dans une période intermédiaire à Lyon, sous l'occupation. Et parfois, j'ai signé des articles après-guerre Bérécy. Mais ce qu'il y a, Naoum, qui est mon nom de famille paternelle, je l'ai gardé dans l'état civil. C'est-à-dire que, de même que dans la résistance, j'avais une double identité, j'étais à la fois gaulliste et communiste. Là, maintenant, je suis à la fois Naoum et Morin. Dans mes papiers, il y a Edgar Naoum, dit Edgar Morin, parce que j'ai pas voulu abandonner, disons, le fait que je suis le fils de mon père, et tout en voulant adopter le fait que je suis le fils de mes œuvres. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est la façon, pas façon complexe d'être moi-même. Mmh. Voilà. Mmh.
À quel âge avez-vous commencé à vivre, Edgar Morin ?
À vivre ? Ça dépend le sens du mot vivre.
Mais si je vous pose cette question, c'est parce qu'à un moment, vous dites « J'avais 20 ans et je commençais à vivre ».
Oui, oui. Alors, donc, si vous voulez, c'est très vrai. Parce que pendant mon adolescence, comme j'étais fils unique, que ma mère était morte, mon père voulait me protéger à tout prix contre des périls réels ou imaginaires. Il ne voulait pas que je milite, il ne voulait pas que je fasse des voyages tout seul avec des copains. Donc je me sentais limité dans mes aspirations à vivre. Et quand arrive ce désastre,
la Seconde Guerre mondiale,
l'effondrement de l'armée française, que je vais me réfugier à Toulouse, là je tombe parmi des étudiants réfugiés, une association de solidarité s'est créée, je suis entré. Et j'ai commencé, disons, même je suis devenu le secrétaire de ce centre des étudiants réfugiés, j'ai retrouvé la communauté, le fait de se dévouer pour les autres, le fait de vivre, d'avoir des relations personnelles, des amitiés. Donc j'ai commencé à vivre dès cette époque-là, et après en 42, au début 42, au moment de me décider à entrer dans la résistance.
Vous avez hésité quand même?
Oui, bah, c'était oui, j'avais peur, et donc d'ailleurs, j'avais rencontré un autre étudiant comme moi, qui était trotskiste, et alors je lui disais, mais pourquoi risquer votre vie? Il suffit de laisser les événements se faire, et puis comme ça. Alors, lui m'avait dit que le courage est une affaire d'organisation, parce que je lui disais que j'avais peur. Ce qui était très vrai, très profond. Une fois que j'étais organisé, je faisais des choses que jamais j'aurais osé faire avant. Mais à ces moments-là, vivre et survivre s'opposent. Survivre, c'est se planquer. Vivre, c'était se lancer dans l'aventure et participer à un combat où participaient des jeunes de tous les pays. Il y a les Russes, les Américains. Donc, si vous voulez, c'était l'aventure collective de l'humanité en même temps que, disons, la libération du pays. Donc, c'est là où j'ai vu que vivre peut comporter le risque de mort. Voilà. Mmh.
Vous vous êtes tourné à ce moment-là vers le communisme, alors que quelques années auparavant, vous vous étiez dit « jamais ».
Bien sûr. Ma culture me rendait complètement immune au communisme stalinien. Seulement, voilà, quand il y a eu la première résistance de Moscou, il s'est commencé, dans ma tête, un travail d'occultation de ce que je savais au profit de nouvelles façons de penser. D'ailleurs, grâce au livre de Friedman, La Sainte Russie à l'URSS, qui montrait que les vices qu'on pouvait voir dans l'Union soviétique étaient dus à l'arriération du tsarisme, et que l'autre idée était aussi que ces vices venaient de l'encerclement capitaliste qui empêchait le socialisme de s'épanouir et qui provoquait une sorte de psychose obsidionale qui expliquait la folie stalinienne. Et je me disais, ben, tout ça maintenant c'est le passé, le futur avec la victoire ça va être l'épanouissement, donc je me suis forgé une justification apparemment rationnelle de mon adhésion.
Apparemment,
bien sûr, parce qu'en fait, après, j'ai compris que c'est une voie religieuse. Hein. Et d'ailleurs, dès que j'ai commencé à me désabuser du communisme, d'ailleurs pas après la guerre, m'est revenue toute la culture de mon adolescence qui était très forte. J'avais lu Trotsky, j'avais lu Souvarine, j'avais lu Simone Veil, la philosophe, pas la ministre, enfin. Je savais ce que c'était que le communisme, j'avais lu les anarchistes espagnols, enfin, je savais. Donc mon ancienne culture m'est revenue. Le communisme, c'est une parenthèse, mais quand même une étape décisive, parce que c'est une expérience humaine extraordinaire. C'est l'équivalent d'entrer dans une église, dans un système. Moi, quand j'étais convoqué au siège du parti, qui était une... où laquelle on entrait avec un sentiment de respect et de vénération.
C'était comme aller chez le pape.
Voilà. Pire encore. Parce que maintenant, c'est plus décontracté au Vatican. Et le responsable du parti me disait, le parti te demande, le parti avec un P majuscule, c'était une autorité impérieuse à laquelle il fallait obéir. C'est comme l'église, on dit Dieu te demande, Dieu veut, Dieu parle par ma bouche. Et donc, si vous voulez, c'était... Et de voir comment des gens débonnaires deviennent des fanatiques, et puis après, s'ils sont exclus, redeviennent débonnaires, c'est une expérience extraordinaire. Moi, j'ai pu ne pas le dire fanatique, parce que j'avais quand même un fond de scepticisme antérieur et de culte. Mais c'est extraordinaire d'expérience humaine.
Vous avez été exclu du parti, le jour même, c'était... un coup dur pour vous, vous le racontez dans le livre, et puis plus loin cette phrase, « Quelle jouissance de redevenir moi-même !»
Oui, bien sûr, j'ai accepté l'exclusion et même j'ai souffert, parce que c'était comme une sorte de famille, vous savez, pas l'autorité, mais on allait dans le monde, on reconnaît en Grèce, partout, on voyait des communistes, des ouvriers ou des paysans, on se sentait aussitôt fraternel. Moi, une fois, j'étais en Grèce et j'étais dans un truc de montagne perdue. Je crève. Et alors, à ce moment-là, je prends mon pneu. Je n'avais pas de rechange. Je vais dans un village et je trouve le forgeron pour qu'il répare mon pneu. Alors, je lui dis dans un mauvais allemand, parce qu'il connaissait un peu l'allemand, puis il avait été occupé par les Allemands. Alors, je dis à Ichbin, une sociologue, je suis là. Alors je lui dis Karl Marx, je lui dis, et lui, tout en continuant à son clou, il m'a dit Marx, Engels, Lénine, Staline. Donc on a fraternisé parce que ce forgeron avait en lui, disons, la foi communiste. Donc si vous voulez, c'était une famille, et c'était rompre avec cette famille. Donc, mais en même temps, aussitôt après, quelle jouissance, c'est vrai, et je n'ai plus jamais appartenu à aucun parti, tout en participant à des associations, des machins, des comités, mais pas un parti.
Que s'est-il passé, Edgar Morin, le 6 février 1934 ?
Eh bien, c'est un événement qui est complètement oublié aujourd'hui, c'est-à-dire que, dans la crise de la démocratie qui a suivi la grande crise économique mondiale des années 29-30 et qui du reste a provoqué l'accession d'Hitler au pouvoir, la crise de la démocratie a joué en France et il y avait ce qu'on appelait des ligues plutôt de droite et d'extrême droite qui ont fait une marche sur le Parlement. Et comme ils allaient prendre le Parlement, la troupe ou la police a tiré et il y a eu un certain nombre de morts et de blessés. Alors, ce 6 février a été un grand événement et dans ma classe, on était en classe de 4e, je crois, la politique n'était pas entrée. Et la politique est entrée comme un ouragan parce qu'à ce moment-là, les fils de gens de gauche seraient de gauche, les fils de gens de droite. Là, on a commencé à discuter, à disputer. Et donc, c'est un événement très important pour nous. Moi, à l'époque, j'étais très sceptique, je lisais l'Atoll France, je me croyais au-dessus de tout ça. Ce n'est qu'après la ferveur des manifestations du Front Populaire qui m'ont entraîné.
Et puis arrivera peu de temps après la guerre d'Espagne.
Oui.
Et là, premier acte de résistance.
Sinon de résistance, du moins un acte politique, c'est-à-dire que je vais... à la SIA, Solidarité Internationale Antifasciste, qui est libertaire, pour contribuer à faire des colis pour l'Espagne républicaine, et notamment la colonne Durruti, qui est cette colonne libertaire qui a joué un rôle important dans la défense de Madrid.
Vous parlez dans votre livre également de votre amitié avec Stéphane Hessel, lui aussi qui était résistant. Et après sa mort, pour le centenaire de sa naissance, vous lui avez écrit un message. Je vais en citer un extrait, Edgar Morin. « Engagez-vous pour que s'épanouisse en vous et en autrui la poésie de l'existence qui est communion, ferveur, amour. S'engager, c'est opter pour une vie poétique pour tout le monde, Edgar Morin ?
Je crois que c'est très important d'abord de considérer l'importance de la poésie dans la vie humaine. Et parce que sous le mot de poésie, on peut aussi mettre toutes les ferveurs que nous avons, aussi bien quand nous sommes amoureux, que nous avons dans l'amitié, dans la communion avec les copains, que nous avons même un match de football, que nous avons devant des merveilles de la nature, que nous avons devant les plus belles œuvres d'art qui peuvent nous amener presque à de l'extase. Donc, si vous voulez, la poésie de la vie, c'est une chose importante, et de penser que c'est un problème qui est politique aussi, c'est-à-dire qu'un politique doit se préoccuper de créer des... On ne peut pas produire artificiellement la poésie de la vie d'autrui, mais on peut créer des conditions pour refouler cette prose envahissante du métro, boulot, dodo, du calcul, du fait que nous sommes comme des objets dans la société, refouler la prose pour que la poésie s'épanouisse. Ça, c'est la chose capitale.
On va parler d'amour, si vous le voulez bien, maintenant, Edgar Morin. Et d'abord, de votre expérience de vie chez Marguerite Duras, rue Saint-Benoît à Paris. Vous avez là goûté à ce que vous appelez le communisme de la vie et de l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était cette année passée pas loin de Marguerite Duras ?
Mais écoutez, ça serait certainement un récit un peu trop long, mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord, nous vivions ensemble, nous étions logés, Violette, ma compagne et moi, chez Marguerite, où il y avait aussi bien Dionys qui était son compagnon, Dionys Mascolo, et Robert Antelme qui était son mari, dont elle était séparée matrimonialement, mais qu'elle aimait profondément. Et ces trois êtres étaient déjà liés d'une façon extraordinaire. Et là-dessus, on est devenus nous-mêmes des satellites, le premier satellite de ce trio. Donc, dans cette vie commune, c'était les repas ensemble, la vie ensemble, les discussions continuelles. On chantait à table, on dansait ensuite. Si on sortait, c'était pour aller au tabou, où Boris Vian jouait de la trompette, ou bien on allait, Juliette Gréco commençait à chanter. Enfin bref, il y avait un univers de Saint-Germain-des-Prés qui était, dans cette année-là, en même temps très ouvert. La guerre froide n'était pas arrivée, on fréquentait très bien Camus, et on s'est séparés, à mon grand regret, parce qu'il avait raison et moi j'avais tort. Mais enfin, mais c'est pour vous dire qu'il y avait quelque chose qui était une harmonie. Je sais que les harmonies, les moments merveilleux ne sont pas éternels, mais ça a duré déjà l'année ou un peu plus où nous étions là-bas. Il y a eu une première distanciation quand Marguerite et Violette se sont trouvées enceintes en même temps, et nous, on a compris qu'il fallait qu'on trouve un autre domicile. Mais on est resté très très liés pendant longtemps, et pour le comité, pour la guerre d'Algérie, etc.
Mais vous oubliez un détail quand même, Edgar Morin.
Dites-le.
Par ailleurs, souterrainement, Marguerite me voulait.
Mais oui. Non, ce qui s'est passé, elle me voulait, et moi-même,
vous n'étiez pas contre.
Non, j'étais pas du tout contre, au contraire, elle me fascinait, etc. Mais il s'est trouvé que elle était très conquérante, si vous voulez. Et moi, je me sentais très inhibé, parce que nous vivions chez elle, avec Violette, ma compagne, et avec Dionys, son compagnon, et quand on dansait, elle commençait à me débaragoter. Mais ceci, au lieu de me stimuler, m'inhibait, vous voyez, à cause de tout ça. Et alors, quand après les années sont passées, on m'interroge à la radio sur Marguerite Duras, et moi je dis, c'était la reine des abeilles, elle nous régissait tous, etc. Et on fait entendre ça, Marguerite, toujours à la radio. Et je l'entends qui me dit, mais non Edgar, mais non, c'est qu'on aurait dû avoir une histoire ensemble et qu'on ne l'a pas faite. Voilà. Non, c'est une histoire d'un amour inachevé, impossible, mais très beau. Voilà.
Vous recevez un jour une lettre avec ce souhait. Je rêve d'embrasser votre belle bouche. C'était il y a une dizaine d'années. Vous le racontez dans votre livre. Alors, ce qui est terrible, c'est que vous répondez à cette lettre, vous fixez un rendez-vous à l'aéroport de Barcelone. C'était de la curiosité ?
Ben, écoutez, vous savez, Edwige était morte, j'étais en deuil, j'étais avec mes filles à Sitges, près de Barcelone, qui me consolait. Et cette lettre m'a un peu émoustillée, il faut le dire, et la curiosité et tout ça. Et donc, effectivement, je n'ai pas résisté, voilà. Donc, c'était une jeune femme tout à fait charmante, gentille.
Et vous avez eu une histoire pendant un an ?
On a eu, oui.
Vous racontez beaucoup dans ce livre des histoires d'amour. Elles ont rythmé votre vie. Parfois, elles sont longues, d'autres fois, elles sont très courtes. Vous avez vécu pas mal de coups de foudre. Alors moi, je me suis demandé, est-ce qu'Edgar Morin est capable de définir l'amour ? Qu'est-ce que ça veut dire aimer, Edgar Morin ?
Alors, pour moi, on aime quelqu'un tant que celui-ci fait émaner de sa personne de la poésie. Dès que l'autre est dépoétisé, l'amour cesse. Ça, c'est la façon négative de définir l'amour. Mais sinon, l'amour est un élan de ferveur pour un être, de besoin de quasi-fusion.